Bonjour à tous. Nous ne sommes pas très nombreux, mais la parole de Dieu est toujours présente. Je vais prier avant de parler. Notre Père bien-aimé, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui nous purifie, qui nous sanctifie et qui nous montre de quel chemin à prendre, Seigneur. Que tu parles à travers ta parole à notre cœur, à chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions vraiment apprendre la vérité que tu veux vraiment parler aujourd'hui, pour que nous puissions mettre en pratique, comme tu l'as déjà commandé au peuple d'Israël à l'époque de Moïse, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème, c'est la parole de Dieu. Le Deutéronome, peut-être pour certains entre vous, c'est un peu pas évident. Deutéronome, c'est le dernier livre du Pentateuque dans ses cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Deutéronome, c'est le livre qui décrit que le peuple Israël, après leur sortie d'Égypte, ils sont... Dieu a dit à Moïse, c'est le temps que Dieu a fixé, ils vont bientôt entrer dans la terre promise, Canaan. En fait, ce peuple qui va rentrer dans la terre promise, ce n'est pas la génération qui est sortie d'Égypte. Parce que la génération qui est sortie d'Égypte, c'était les parents, c'était les adultes. Et on remonte un peu les années, à peu près un an et deux mois après qu'ils ont sorti. Dieu les a sortis d'Égypte, de la main d'esclavage du Pharaon. Après les 10 fléaux, après ils ont marché au sec dans la mer morte. Après tous les prodiges et tout, ils sont allés, Dieu les a conduits dans le désert de Sinaï. Et là, après, normalement, après un an et deux mois, Dieu leur a dit à Moïse de faire le dénombrement, de compter tous les hommes prêts à être combat. Et ils étaient 600 000 hommes prêts à partir de 20 ans. Et ensuite, Dieu a dit à Moïse de envoyer, choisir, ils sont 12 tribus, dans un chef de chaque tribu pour aller inspecter la terre qu'ils vont aller conquérir. Donc, ils sont partis à 12. Vous pouvez lire ça dans Nombre 13 et Nombre 14. Je vous résume un peu. Les 12 espions sont allés. Ils ont fait aller-retour. Ils ont mis 40 jours. Quand ils sont rentrés, il y en a 10 qui ont donné un rapport négatif. Ils ont dit, bien sûr, là-bas, la terre, ça coule du miel. Il y a du lait. Ils ont dû rapporter les grappes de raisins portées à dos par des hommes. Vous voyez, je ne sais pas combien un gros les raisins. Mais, les hommes là-bas, ils sont géants. Probablement plus géants que David, le Pharaon. Et, nous, à côté, à leur côté, on n'est que les sauterelles. Alors, les villes, c'est super, mais elles sont fortifiées. C'est imbattable, imprenable. N'y allons pas, on va être massacrés, nos enfants vont mourir. Voilà, il y a 10 espions qui ont vu des crises qu'ils ont vues par la vue. Parmi les 12, il y a 2, Josué et Caleb, ils ont vu par leur foi. Ils ont dit, n'aie pas peur, c'est vrai, ils sont forts, les villes sont fortifiées, mais le Seigneur marche de nous, le Seigneur combat pour nous, il nous a promis, nous allons avoir. Mais non, les autres de l'assemblée, à l'époque, ils ont écouté les 10. Du coup, ils se sont dit, ils ont failli lapider Caleb, Josué et Moïse et tout le reste. Et ils disent, choisissons un chef pour nous ramener en Égypte. Ils ont oublié qu'en Égypte, ils étaient des esclaves, hein. Voilà, mais finalement, Dieu, la gloire de Dieu est apparue et Dieu a dit, bon, vous n'avez pas cru à ma parole malgré tous les miracles que je vous ai faits pendant ces années. Voilà, maintenant, vous avez mis 40 jours pour faire aller-retour. vous allez mettre 40 années errer dans le désert jusqu'à ce que vous soyez morts. Et après, ça sera vos enfants que vous avez dit qu'ils vont mourir. C'est eux que je les amène dans la terre promise. Voilà. On arrive. Voilà. Normalement, au bout d'un an et deux mois, ils peuvent y aller, mais non, ils ne croient pas. Donc, ils vont mourir. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi je dis, Dieu a dit pourquoi l'homme ne vit pas seulement du pain physique, mais de sa parole qui sort de sa bouche. Voilà. Donc, du coup, donc, cette génération-là a vu moins de miracles que les grands miracles que la génération avant, mais ils ont quand même, pendant les 40 ans, ils ont été nourris par la manne. La manne, c'est un aliment qui descend du ciel chaque matin. Donc, pendant 40 ans, ils sont nourris par la manne et par le rocher. Soit Moïse tapait, soit il parle, le rocher sort de l'eau. Et Paul nous dit dans Corinthiens que le rocher, c'est Jésus-Christ qui les accompagne tout le temps. Donc, pendant les 40 ans, la génération quand même a appris qu'ils ne vivent qu'en dépendant de Dieu. Sans nourriture, sans eau, ils sont morts. Et là, Dieu leur a dit, pendant ces 40 ans, vos chaussures ne sont pas usées, les vêtements, et vous n'êtes même pas malades, tout ça. Donc, c'est vraiment, ils ont vécu les 40 ans, c'est vraiment en dépendant de Dieu. Et pour cela que, avant d'entrer dans leur pays promis, Dieu sait qu'ils vont être en abondance de tout. Dieu sait qu'ils vont oublier le Dieu qui fait don, qui bénit. C'est pour ça que Dieu a demandé à Moïse de leur demander vraiment de toujours aimer Dieu, craindre Dieu et obéir, mettre en pratique les paroles de Dieu. Alors, il y a deux choses que Dieu leur donne. Dieu leur demande de respecter et mettre en pratique tous les commandements que Dieu leur prescrit, afin qu'ils puissent vivre et vivre heureux. Deuxième choix, si eux, en rentrant dans le pays promis, ils oublient Dieu, ils sont rassasiés, ils sont riches, ils vont dire que c'est moi, ma force, ma puissance, qui a ça, s'ils oublient Dieu, qui se prosternent devant les autres, Dieu l'a promis, vous allez mourir. Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Ce que Dieu dit à son peuple dans l'Ancien Testament, c'est valable pour nous aujourd'hui aussi. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ce que Jésus l'a dit dans Matthieu 4:4 quand il a été tenté par Satan dans le désert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Satan, parce que après 40 jours de jeûne, Satan lui a dit à Jésus, si tu as faim, transforme ces pierres en pain. Et Jésus a répondu là. Mais donc, c'est pas seulement dans Matthieu, c'est déjà dans 8 de Théorème. C'est pour ça que je vais vous partager aujourd'hui que vraiment, nous, en tant que le nouveau peuple Israël, notre vie spirituelle nouvelle qui est ressuscitée par notre foi en Jésus-Christ en dépend. Si on veut croître et être en bonne santé, on a besoin d'être nourri par cette nourriture spirituelle. La parole de Dieu, c'est vraiment la nourriture indispensable. Elle n'est pas optionnelle, elle n'est pas facultative. Elle est pour notre croissance spirituelle. Quand on est né, on est tous bébés. Il y a un bébé dans la salle. Donc, si on prend pas, le bébé ne boit pas le lait, ne prend pas de céréales, ils vont pas grandir. Nous, c'est pareil. Pour connaître la volonté de Dieu, connaître et obéir, et pour vivre heureux selon Dieu. Donc, la parole de Dieu est notre référence. Elle doit faire l'autorité dans notre vie et dans la vie de l'Église. C'est pour cela que, vraiment, pour notre croissance et pour, bien sûr, pour grandir dans la foi, pour notre progression dans la sainteté. La toute première chose, c'est vraiment, j'ai chanté tout à l'heure, Je remercie le Seigneur. Avec David, on n'a pas, je lui ai pas dit ce que j'ai prêché, mais c'est toujours le Saint-Esprit qui nous conduit. On a chanté auprès de Dieu, près de toi, tout ça. Près de Dieu, auprès de Dieu, ça veut dire quoi? C'est être avec, lire sa parole, que sa parole demeure en nous. Sinon, c'est pas, voilà. Donc, alors, parce que Jésus l'a dit dans Jean 6, 66, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, que je vous le dis, sont esprit et vie. Vous voyez? La parole de Dieu, c'est esprit et vie. Pour ça, c'est indispensable pour notre croissance spirituelle. Alors, pour grandir spirituellement, nous, la première chose, c'est vraiment la relation intime avec Dieu. C'est ce qu'on a chanté. Vraiment, bien connaître Dieu dans vraiment la parole de Dieu. Bien sûr, il y a d'autres domaines après. Il y a participer à l'étude biblique, enseignement biblique, la communion fraternelle, aller au culte, à la Sainte-Cène, prière. Mais aujourd'hui, je vais centrer que sur ce point, la relation intime avec Dieu et vraiment la parole de Dieu. Trois choses. Voilà. Et en plus, c'est une arme puissante. L'esprit de Dieu, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous soumettez toujours dans Matthieu 4, 4, quand Jésus est tenté par Satan dans le désert, trois fois de suite, Jésus a fait fuir Satan par sa parole. Donc, c'est aussi pour nous, si Satan nous tente, il nous accuse, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour le faire fuir. L'épée, c'est vraiment bien. C'est pas seulement défensif, c'est aussi, ouais, offensif. Merci Anne-Marie. Il y a quelqu'un qui a fait de l'escrime, non? Donc, non, pas, voilà. C'est la raison pour laquelle j'encourage tout le monde de retenir les versets. C'est pour votre sécurité, je veux dire. Voilà. Donc, et Dieu nous a sauvés pas pour avoir une vie peinard. Paul l'a dit. En réalité, lui, c'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a sauvés, ressuscités pour faire des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Alors, on fait des œuvres, pas être sauvés, hein. On est déjà sauvés. Par la foi, c'est un don de Dieu. Mais étant sauvé par grâce. Grâce, c'est la faveur imméritée. Nous, toi, moi et vous, on méritons tous aller à l'étendue du feu. Dans sa grâce, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, qui n'a pas de péché, mourir à la croix, porter nos péchés sur lui, afin que, étant mort à la croix, le péché est mort, et comme Jésus ne mérite pas la mort, et il est saint, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Donc, Jésus a vaincu à la fois le péché et la mort, et il est ressuscité, il a apparu 40 jours auprès de 500 personnes à peu près, chrétiens, après il est monté au ciel. C'est pour cela, et après, Dieu nous a donné son Esprit Saint en nous, justement. Et vous voyez les œuvres bonnes que Dieu veut que nous les fassions. Il l'a préparé d'avance. C'est même pas, moi je pense un peu, c'est comme les parents. On a préparé un villa, une voiture pour les enfants. Mais les enfants ne conduisent pas la voiture, la voiture ne marche pas. Donc Dieu a tout préparé. Nous avons juste à obéir. C'est pour ça que la Bible nous dit obéissance est beaucoup plus importante que l'offrande. Alors, comment faire pour la parole de Dieu? Moi, je fais en trois points. D'abord, lire la parole de Dieu. Ensuite, méditer la parole de Dieu. Dernier point, pratiquer la parole de Dieu. Voyons ensemble lire la parole de Dieu. L'Hébreu 4, verset 12, il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et c'est vrai que quand j'ai préparé ce passage, je viens d'y penser aujourd'hui. En fait, j'ai été convertie en lisant la parole de Dieu. Parce que moi, je n'étais pas chrétien depuis longtemps. C'était une époque où j'ai ouvert mon cabinet à Logne. J'attendais des malades tous les jours. Et je pense que maintenant, avec du recul, j'ai compris, Dieu ne m'a pas donné des malades. Il a donné 2 ou 3 personnes. Je m'ennuyais et j'ai emprunté une Bible à une cousine. Et je commence à lire. J'ai commencé par lire l'Évangile. À chaque fois, je lis l'Évangile, Matthieu ou autre. Quand j'arrive au chapitre La Passion du Christ, et je pleurais. Et je dis, à l'époque, j'étais orgueilleux, puisque je me suis dit, j'arrive à réussir tout par moi-même. Donc, et là, j'ai dit à Jésus, si tu es mort pour moi, vraiment ça, moi qui n'ai jamais accepté d'être soumis à personne d'autre que moi, je suis mon maître, mon chef, je veux bien être soumis à toi, mais en attendant, je veux vraiment bien le connaître. Donc, j'ai continué à lire sa parole et vous voyez, ça, vraiment, la parole de Dieu est vivante. Et j'ai lu le témoignage d'autres chrétiens, c'est souvent en lisant la Bible que la personne connaît Christ et a donné leur vie à Christ. Alors, pareil pour Augustin. Bon, on l'appelle Saint Augustin, mais bon, Augustin, avant d'être vraiment un père spirituel, il a mené une vie vraiment dépravée. Il avait des un peu comme Salomon, on peut dire. Il a plein de maîtresses, plein de tout ça. Il change de femme en femme et tout, aucune femme ne le satisfait. Il était comme ça tout le temps. Sa maman est chrétienne, sa maman prie pour lui. Et un jour, il se promène dans un parc, il a vu les moines qui étaient ensemble, qui étaient joyeux. Il comprend pas, il dit comment ça se fait, les moines étaient joyeux et moi j'ai tout et tout ce que, et je suis malheureuse. Et il a lu le Romain 12, verset 13. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Là, Dieu lui a parlé. Immoralité, débauche. Là, c'est à partir de là, et c'est grâce à, il a reçu Jésus-Christ dans sa vie et c'est fini. Il est devenu un homme. Son ancien maîtresse est revenu la voir, mais il a dit non, c'est fini. Le Augustin avant est mort. Le nouveau en Christ, il est là. Vous voyez, pour vous montrer, la parole de Dieu est vraiment efficace. Si vous ouvrez, si on ouvre le cœur à Dieu, Dieu parle. Voilà. Ensuite, alors, 2 Timothée 3, Paul dit que c'est Dieu aussi qui dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Vous voyez ici, c'est encore, Dieu est vraiment bon, il nous demande pas quelque chose, on n'est pas capable de le faire. Quand il nous demande quelque chose, il nous forme. Donc, vous voyez, enseigner, c'est des règles de vie, de relation à suivre ou à éviter. Quand je pense aux 10 commandements, les 6 avec relation avec les autres, honorer nos parents, c'est normal. Les parents nous ont élevés, nous ont aimés, c'est aux enfants d'obéir et de... voilà. Et comme ça, vraiment, la famille, et c'est vraiment la cellule que Dieu veut. Mais je vois qu'actuellement, la famille est décomposée. Les enfants ne sont pas si respectueux, même beaucoup de j'entends des histoires des parents oubliés dans les maisons de retraite. Les enfants ne vont pas les visiter. Et souvent, on a une sœur dans notre cellule de maison, elle nous raconte, elle est en train de visiter sa tante, elle a 4 enfants qui vivent en France. Aucun, ils l'ont mis dans la maison de retraite. Depuis qu'elle est dans la maison de retraite, aucun enfant vont la visiter. Et là, cette grand-mère, elle est en train de laisser mourir. Elle mange plus. Même ma sœur en Christ, là, elle y va, elle lui donne à manger, mais elle s'endort, elle mange pas. Moi, je lui dis, cette grand-mère, personne ne va la voir, et elle réclame rentrer chez elle, bien sûr, elle peut pas rentrer. Donc, vous voyez, elle se laisse mourir. Donc, et le deuxième, c'est ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre adultère, tout ça, c'est vraiment pour préserver la relation entre les personnes. Donc, vraiment, tout ce que Dieu nous demande, c'est ce qui est bien pour nous. C'est pour ça, il veut qu'on les suive. Donc, c'est sûr que les non-chrétiens disent, oui, c'est barbant, il y a des règles, tatati, tatata, mais ils n'ont pas compris que Dieu, c'est notre créateur. Il connaît mieux nos pensées, notre cœur, et c'est comment est notre cœur. Donc, tout ce qu'il demande à faire, c'est vraiment bien. Convaincre, c'est seul l'Esprit Saint peut convaincre notre péché. Même si moi, je dis à quelqu'un, tu es pécheur, si t'es pas convaincu par l'Esprit, par la parole de Dieu, non, donc c'est vraiment la parole. Et encore aujourd'hui, je pense que vous avez tous expérimenté, nous sommes chrétiens, mais nous péchons encore tous les jours. Et souvent, on est la différence entre chrétien et non-chrétien, c'est que quand à chaque fois que je pêche, je sais que je pêche. Je rougis et j'ai honte. Et je demande pardon à Dieu. Quand j'étais pas chrétien, mon prétexte, c'est mentir, les autres ont menti, tricher, les autres ont triché, c'est pas grave. Mais aux yeux de Dieu, dans sa parole, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de compromis. Voilà, donc quand on connaît bien la parole de Dieu, la parole est vérité. Corriger, c'est pareil, il nous corrige, nous ramène vraiment. Vous voyez, avec Augustin, sa vie a été vraiment grandement corrigée. Ensuite, lire la parole, c'est bien, mais après, c'est bien de s'arrêter, de méditer, et puis se poser des questions sur le texte qu'on lit. Par exemple, quel est le message de l'auteur à l'époque pour le lecteur de l'époque ? Et pour moi, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce message? Est-ce qu'il m'apprend quelque chose sur la personne de Dieu, de Jésus, Saint-Esprit, le salut, etc.? Ou comment rattacher ce texte, on est en train de lire, à la grande histoire de rédemption de Jésus-Christ? Par exemple, là, j'ai fait l'étude avec deux sœurs ce matin. J'aurais dit, dans Genèse 3, 15, il parle de déjà l'ébauche de l'évangile. Je mettrai, Dieu parle au serpent, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, la descendance de la femme t'écrasera par la tête et tu le monteras du talon. Voilà, donc ça, c'est vraiment ça a rapport avec la rédemption, c'est Jésus-Christ. La descendance de la femme, c'est Jésus-Christ qui va naître de Marie. Vous voyez, Jésus a parlé aux deux disciples qui marchaient sur le chemin de Emmaüs. il leur a expliqué tel texte, tel psaume, tel prophète parle de lui, quoi. Voilà, quand nous lisons des textes, prions et demandons à Dieu, au Saint-Esprit, de nous illuminer. Ou bien, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou un exemple à ne pas imiter? Par exemple, dans 1 Corinthiens 10, Paul parlait du peuple Israël qui marchait dans le désert. Il n'arrête pas de murmurer, de provoquer Dieu et de ne pas croire, tout ça. Donc ça, c'est vraiment des choses à ne pas imiter. C'est pour ça, souvent, quand je commence à et ne pas se plaindre. Donc, quand je commence à me plaindre, je me suis dit, non, c'est un péché. Je pense que c'est l'Esprit Saint qui me convainc de dire que non, tu n'as pas à te plaindre. Dieu t'a tout donné en Christ, puisque dans Colossiens, Dieu nous dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, voilà, c'est quand on a beaucoup de paroles de Dieu en nous, on peut nous rappeler, nous vraiment rappeler à la raison. Et vraiment méditer. C'est pour cela que je vous encourage, quand vous lisez un texte, faut commencer d'un livre du début à la fin. Il faut pas ouvrir la Bible et puis n'importe quel chapitre et puis après passer. Si vous n'avez jamais lu la Bible tout entière, je vous en conseille vraiment de faire du Genèse jusqu'à Apocalypse. Il y a beaucoup de guides de lecture de la Bible, hein, donc c'est voilà. Et vraiment méditer, parce que quand vous méditez sur la parole de Dieu, vous êtes dirigé vos pensées vers les pensées de Dieu. Vos pensées va être alignées sur les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu sont justes, parfaites et bonnes. Paul nous a dit d'être remplis de pensées justes, bonnes, agréables, honorables. Si on n'est pas rempli par les pensées de Dieu, par la parole de Dieu, on sera rempli par les pensées du monde, par les pensées de nos collègues, de nos voisins, d'hommes qui... Selon Dieu, c'est aussi la Dieu, c'est opposé à Dieu. Voilà, c'est vraiment... Et parfois, quand moi, ça m'arrive, quand je médite tel ou tel verset, je suis conduit à prier ou à confesser ou bien à louer Dieu. Parce que je pense à l'Évangile, Jésus qui est mort pour moi, qui est tellement tout ça... Ça vraiment, je me mets à chanter, à prier. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est George Müller. C'est vraiment un grand homme de Dieu. Il était en Angleterre. Il a exercé 80 ans de ministère pour Dieu. Il a vécu jusqu'à 93 ans ou 98 ans. Lui, justement, il a écrit sur la méditation de la parole de Dieu. J'ai oublié de ramener son biographie. Alors lui, avant sa conversion, il est, bon, pas comme Augustin, mais il a une vie pareille. Il mentait, il volait l'argent de son père, il volait l'argent de tout le monde, il mentait. Et même une fois, il a été mis en prison. Parce qu'il est allé, il aimait bien la vie luxueuse. Donc, une fois, il a été dans une auberge, il a fait croire au aubergiste qu'il a l'argent, mais à la fin, il n'avait pas, du coup, on l'a mis en prison pour ça. Mais un jour, il a été à une prière et il a été touché, pareil. Donc, une fois, il est changé. Alors, lui, c'est un homme de foi de ouf. Si j'ai 1% de sa foi, je suis content. Il a fondé, parce qu'à l'époque, en Angleterre, il y a beaucoup, beaucoup d'orphelins. Vous savez où on les met, les orphelins? Dans les prisons. Il n'y a plus de place dans les orphelinats. Et ça touche George Müller. Il a dit qu'il veut fonder des orphelinats. Et il ne parle à personne. Il a dit simplement qu'il veut faire un, fonder un orphelinat. Il n'est pas allé voir un tel, un tel, un tel, donne-moi l'argent pour ça. Il a dit, c'est à Dieu de lui donner l'argent. Il a seulement prié. Et petit à petit, les gens comme ça, Dieu fait venir les gens. Et à chaque fois, c'est comme ça. Une fois, il a ordonné l'orphelinat, tous les jours, ils ont tout juste ce qu'il faut pour manger, et ils prient. Et Dieu fait, quelqu'un, le boulanger livre les gratos, les pains, le lait, tous les jours comme ça. Il a vécu comme ça, tout le temps. Et il a nourri 10 000 orphelins. Il a fondé aussi l'école chrétienne, l'école missionnaire. Et moi, je me suis dit, tout seul, il a fait l'œuvre de 4 ou 5 personnes hein, par la foi en Christ. Et en fait, au départ, il voulait partir en mission, mais c'était pas l'œuvre de Dieu pour lui. Du coup, bref, bon, Jean Brunet, il dit, il a trouvé vraiment de très bonnes choses quand il médite la parole de Dieu. Il expliquait avant, quand il se lève, il commence à prier, mais souvent ses pensées vagabondent partout, il a mis une heure pour, et ça ne donne rien. Puis un jour, il a commencé à lire la parole, il médite sur la parole. Il médite sur vraiment, il demande la bénédiction de Dieu sur la méditation. Et depuis qu'il a fait ça, il dit que vraiment son âme est bénie par Dieu. Et il dit qu'il ne rate rien. Il commence vraiment sa matinée à vraiment passer auprès de Dieu pour être nourri lui d'abord. Ils disent qu'en faisant ça, sa vie est complètement transformée. C'est pour ça qu'il a écrit dans son autobiographie, il nous supplie tous de le faire, que c'est vraiment, vraiment bien. Et moi, je peux vous dire aussi, il y a un moment, je n'étais pas très joyeuse. Mais je sais que dans Philippiens 4:4, Paul nous a demandé, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il répète encore, soyez dans la joie. Et je dis, Seigneur, je peux pas être dans la joie, donc je ne vis pas ce que, je n'applique pas ce que tu me donnes de vivre. Et après, je me suis dit, c'est pas bien, parce que je sais pourquoi, j'ai identifié, parce que je fixe pas mon regard vers le Seigneur. Je fixe mon regard vers les hommes. Je cherche la faveur des hommes, je cherche l'approbation des autres, dont ils vont toujours me décevoir. Donc, depuis ce jour-là, je dis à Jésus, je fixe mon regard sur toi. Même si les autres ne me respectent pas, ne me donnent pas vraiment ce que je voudrais avoir, c'est toi mon seul bien. On a chanté tout à l'heure aussi. Et j'ai trouvé ma consolation et mon encouragement dans le psaume 16. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Tu me fais connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, bonheur éternel auprès de toi. Et depuis que j'ai ce psaume, je retiens par cœur et je médite. Je peux dire que je médite. Pourquoi je veux retenir par cœur? Parce que pour pouvoir méditer même dans la journée. Quand je conduis, quand je prends le CH, je prends le RER, mais quand je marche, je peux parler à mon âme par la parole de Dieu. David, dans le psaume 37, il a dit, mon âme, pourquoi gémis-tu? Espère en l'Éternel. Donc, ça nous rappelle vraiment quand on est abattu, quand on est découragé. Arrête de monologuer avec nous-mêmes. Si je pars à moi-même, je vais dire, ouais, t'as pas réussi de faire ça, t'as raté ça, t'as machin et tout, t'as mal dit, t'as mal fait. c'est que les découragements, ou bien plutôt, oui, t'as bien fait, machin. Mais non, c'est, il faut parler avec Dieu. Quand vous lisez les psaumes, les auteurs, ils parlent avec Dieu, parlent leur, ils disent, c'est vraiment une conversation avec Dieu. Donc vraiment, quand vous êtes abattu, quand vous êtes découragé, lis la Bible et prends le verset qui te dit. Le verset peut varier. Certains jours, certains mois, c'est pas toujours le même verset. C'est pour ça que la Bible est tellement riche. Surtout les psaumes, hein. Les psaumes répondent à tous les circonstances de notre vie. Quand nous avons peur, il y a d'autres psaumes. Quand nous avons inquiétude, il y a des psaumes. Vraiment, c'est un trésor. Trésor. C'est à vous de fouiller, de trouver. C'est vraiment, Jésus ne veut pas durer, non. Je dois dire que c'est vraiment vrai, hein. Moi, je l'ai goûté. Donc, je vous invite de goûter. Il faut manger le plat complet, à volonté. Ne pas aller au buffet, je ne sais pas où, à volonté, mais venez ici, à volonté. Alors là, votre joie, votre paix sera plénitude de joie. Et voilà, Jean Muller l'a dit, donc c'est, je pense que certains l'ont fait, l'expérience, que Dieu nous parle à travers vraiment sa parole. Alors maintenant, après avoir lu, après avoir retenu, médité, pratiqué. Si on ne pratique pas, ça ne sert à rien. Hein? C'est comme je vais à l'auto-école, j'apprends le code, j'apprends à conduire, mais je ne prends jamais ma voiture, je ne conduis pas. Donc, on ne sait pas si je conduis bien ou je conduis mal. Pratiquer. Justement, c'est pour ça que Dieu veut que nous fassions des bonnes œuvres. Il l'a préparé d'avance, hein. C'est pas à nous de préparer. Voilà. Donc, c'est facile ou pas? Oui ou pas? J'entends pas. Facile ou pas? Non? Je dirais non. Oui et non. Le cœur, des fois, on peut le faire, mais des fois, on a la chair. Mais si on persévère, ça arrive. Par exemple, est-ce que je vous ai sorti? Oui. Alors, Jacques dit dans Jacques 2, 26, « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est mort. » Simplement pour dire, si on lit la parole, on médite la parole, on fait rien. Pour Jacques, on n'a pas la foi. D'accord? Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour les façons, on ne le fait pas. Donc, quand on est face à face devant Jésus-Christ, il va demander, Eliane, qu'est-ce que tu as fait? Je suis là, oui Seigneur, oui, je sais pas. Voilà, c'est chacun de nous. Il nous demande compte, hein. La Bible nous dit plusieurs fois. Chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il a fait. Voilà. Alors, concrètement, par exemple, Jésus l'a dit, dans Luc 20, 25, rentre à César ce qui est à César, rentre à Dieu ce qui est à Dieu. Moi, j'avais compris que vraiment, il n'y a pas de triche, de fraude dans tout ce qui est envers le gouvernement. Donc, vraiment, à Dieu, on donne la dîme, on donne des offrandes, tout ça, c'est à Dieu. Mais on doit payer des impôts, on doit payer des taxes, on doit payer, déclarer nos recettes, nos honoraires, tout, honnêtement. Ne pas tricher là-dessus. Pour moi, j'ai compris vraiment ça. Même dans les petites choses, dans la révision de la voiture, ou même dans la coupe brushing, il y a beaucoup de coiffeurs à domicile, sans déclarer. Moi, au départ, je l'ai fait une ou deux fois, mais après, j'ai vu ce verset, c'est non, quoi. Vous voyez, c'est vraiment tous les détails, hein. Il faut pas dire que, ouais, couper les cheveux, ça coûte pas cher, parce qu'avant, même faire les travaux à la maison, souvent, on raisonne sans TVA, c'est 20% moins cher. Mais avec Dieu, c'est ça. C'est ce qui est à Dieu, c'est à Dieu. Ce qui est au gouvernement, c'est au gouvernement. Parce que à l'époque, je regrette parce qu'il y a un chrétien qui m'a dit, tu as le droit de faire ça, je pense. Il m'a dit ça. Les travaux au noir, hein. Tu peux le faire. L'argent que tu as économisé, tu vas donner à Dieu. Mais après, j'ai réfléchi. L'argent que j'ai économisé, c'est la triche. Et si je donne à Dieu, il va pas agréer. Donc voilà, je veux dire, le chrétien qui m'a dit ça, mais bon, bref, voilà, pour vous dire, hein, donc je mets en pratique ça. Ou bien, dans Pierre, 1 Pierre 5:5, Dieu dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tout ça pour nous dire que l'orgueil, c'est un péché. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un entre nous dans cette salle qui n'est pas orgueilleux? Et qui lève la main. Tout le monde est orgueilleux. Hein? On a dit ce matin. L'orgueil, c'est plus fort que nous. Moi aussi, je suis un des plus orgueilleux de parce que je me suis dit, je suis arrivée en France, 18 ans, je connais même pas le français, j'ai réussi la médecine, j'ai réussi machin, j'ai ça, plouf. Mais une fois, je suis convertie, j'ai vu que ce n'est pas grâce à mon intelligence que j'ai réussi la médecine. C'est parce que Dieu a voulu que je sois médecin. Parce qu'à l'époque, à mon époque, il n'y a pas des cours sur Internet, hein. Et mon français était tellement mauvais, en première année, j'avais des trous, plein de trous dans mes, il faut être là-bas à gratter, hein. On peut pas manquer. Maintenant, j'ai appris, on peut manquer, on peut avoir tout, sur Internet et tout. Et moi, à mon époque, c'était il y a 30 ans, en 79. Donc, on doit y être à l'amphithéâtre, à prendre des cours. Et moi, j'avais des trous dans mes cours. À l'époque, en première année, je sais pas si vous savez, c'est des parcours courts. Les premières qui sont bien placées, ils passent. Dans les autres, ce sont des ennemis, hein. Ils vont pas t'aider. Ils vont pas te donner des cours. Mais moi, j'ai une voisine qui m'a donné des cours. Parce qu'elle est désintéressée. En fait, elle est là pour prouver parce que son père veut qu'elle fasse médecine. Mais une fois qu'elle a réussi, mais après, elle est allée faire l'instit. Donc, elle m'a donné ses cours. Je suis assise à cette place. Et mon médecin m'a donné les cours de sa fille qui a fait une année ou deux années avant moi. Avec ses deux copies, je peux remplir mes trous. Voilà, maintenant, je remercie le Seigneur que c'est grâce à ça que j'ai réussi mon concours. Hein. Sinon, j'arrive... voilà, vous voyez, c'est... appliquer, quoi. Et pareil, hein, ne pas servir de maître, argent ou Dieu. C'est à nous de choisir. Voilà. Là, c'est l'application. Donc, vous voyez, lire, méditer, mettre en pratique. Mais si la première fois, on n'arrive pas à mettre en pratique, c'est pas grave. On se relève, on se repent et on demande pardon. Ah oui, j'ai raconté tout à l'heure. Je sais que l'orgueil est le plus grand péché en moi. Et j'arrête pas de demander à Dieu chaque jour, brise mon orgueil, parce que vraiment, je n'en veux plus. Je veux être humble et doux comme Jésus. Mais parfois, malgré moi, hier soir, j'ai rêvé. Je devrais aller à une formation théologique. Et quand je suis arrivée, mon nom n'est pas inscrit dans leur liste. Ils cherchaient pas Eliane Tang. Ah, j'étais fâchée, tout rouge, puisque ne m'avait pas noté. Hop, je suis partie. Donc je me suis réveillée, mais je lui ai dit, Seigneur, ce rêve, ça me choque, quoi. Je dis, pourquoi je réagis comme ça? C'est vrai, hein, c'est hier soir. Et là, j'ai identifié la raison de mon... pourquoi je suis partie? À cause de mon orgueil, puisqu'ils ne m'ont pas noté dans leur liste. Et à cause de ça, j'ai raté la formation. J'ai préféré choisir ma face qui ne voit rien que de rester là à apprendre quelque chose sur Dieu. Et là, c'est vraiment ce rêve-là. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait rêver là hier soir alors que j'ai prêché aujourd'hui. D'habitude, je ne me souviens pas trop de mes rêves, mais là, vraiment, je me souviens. Pour vous dire, hein, donc identifiez-vous. C'est pour ça que j'ai dit, partagez aussi ce matin. Je ne sais pas, est-ce que vous savez qu'être en colère, c'est un péché ou pas? Parce que je ne savais pas jusqu'à il y a quelques mois, moi. Non, il y a certains qui disent non. Et c'est, en lisant la Bible, c'est pareil, je sais que c'est mauvais. Et j'essaye de ne pas me fâcher, mais c'est dur. Si quelqu'un dit que c'est facile, je le félicite. Mais finalement, mais Dieu est bon parce qu'il veut pas qu'on soit fâché, parce que quand on est fâché, la personne qui est malheureuse, c'est moi. Je me fais du mal. C'est pareil, j'ai partagé à une sœur au téléphone, elle m'a dit oui, tu as raison. Il y a une fois, j'étais tellement fâchée, jamais aussi fâchée. Du coup, elle a mal à l'estomac. Et elle a du mal à respirer. Vous voyez? Et parfois, il y a des gens qui meurent de l'infarctus. Hein? Donc, vous voyez, la colère ou de faire un AVC, un hémorragie, quoi. Donc, voilà. Donc, de toute façon, Dieu nous a demandé d'être pacifique. Dans Hébreux et dans Romains, nous demande faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Et là, j'essaye vraiment de mettre en pratique. Vous voyez, c'est vraiment c'est pour ça que Dieu veut vraiment que nous pratiquions sa parole. Et vous voyez, dans la Bible, Dieu dit que justement, il veut que le peuple juif dans l'Ancien Testament de pratiquer sa parole pour que les gens, en les voyant, dire qu'ils sont sages pour les amener à connaître Dieu. Et pour nous, c'est pareil. Vous voyez les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, Daniel, Esdras, Néhémie, qui connaissent vraiment la parole de Dieu. Ils sont vraiment les hommes sages, placés auprès des rois. Et voilà, on peut être comme Daniel, Esdras ou Néhémie à condition qu'on lit la parole, médite et pratique. Voilà, vraiment, j'ai à cœur que chacun de nous soit vraiment, parce que la dimanche dernier, on a fait un partage table ronde ensemble, vraiment, Michael, il a dit une phrase que moi, je suis vraiment d'accord, que tout le monde grandissent ensemble dans la foi, dans la progression de la sainteté, pour que l'Église de Saint-Maur puisse vraiment briller, être le sel, pour que vraiment que les gens dehors, quand ils rentrent, ils voient vraiment Christ en nous, quoi. Voilà. Bon, chers frères et sœurs, la parole de Dieu n'est ni ancienne ni moderne. Elle est éternelle. Elle est notre référence. Elle doit vraiment faire autorité dans notre vie et dans la vie de l'Église. Lire la parole de Dieu n'est pas facultative. C'est vraiment nécessaire et indispensable pour la croissance de notre santé spirituelle et aussi pour notre sécurité spirituelle. Sinon, on peut être ballotté, entraîné par des fausses doctrines, par des faux enseignants. La parole de Dieu est vraiment une conduite de vie pour nous. Elle nous enseigne dans tous les domaines, dans la vie de couple, la vie de famille, des enfants, les relations humaines, la vie professionnelle, les rapports entre avec les autorités, le travail, les affaires, l'argent, etc., etc. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il nous a créés, connaît notre cœur. Seule sa parole peut transformer notre cœur. Il n'y a aucun d'autre chose peut le faire. Voilà. Donc, si tu as déjà fait cette discipline, lire la parole, méditer, appliquer, vraiment, je te félicite et je t'encourage de continuer à le faire. Peut-être en monter, si tu peux, en monter encore le temps, ça sera encore mieux, puisqu'on a chanté tout près de toi, auprès de toi, donc c'est vraiment auprès de sa parole. Et pour les frères et sœurs qui n'ont pas encore fait cette démarche, je vous encourage, t'encourage vraiment de prendre un temps. Le mieux, c'est vraiment le matin. Le matin en se levant. Parce que je trouve qu'en étant enfant de Dieu, disciple de Jésus, avant de voir les hommes, c'est vraiment bien de voir notre Seigneur bien-aimé d'abord. Pour être rempli, comme dit George Muller, nourri par sa parole. Là, après, on sera vraiment dans la paix, dans la joie. Et là, on va pouvoir faire face à toutes les tempêtes, à toutes les vagues, à tous les vents dans la journée. Voilà. Je veux terminer par psaume 1. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Père bien-aimé, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Nous ne méritons rien, Seigneur. Nous sommes souvent défaillants, faibles. Mais toi, tu nous aimes jusqu'à donner ton Fils mourir à notre place pour nous, Seigneur. Continue, s'il te plaît, de nous encourager, de nous réconforter, de nous exhorter, corriger, convaincre par ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie, Seigneur. Surtout que nous puissions vraiment mettre en pratique ce que ta parole nous enseigne, Seigneur. Nous voulons le faire pour la gloire de ton nom et pour le bien, l'édification de ton corps, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.